la nature. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Suivre les maîtres? Mais pourquoi donc les suivre? Ils ne sont des maîtres que parce qu'ils n'ont suivi personne. Si un peintre voulait demain voir les ombres roses ou violettes, on n'aurait pas à lui en demander compte, pourvu que son œuvre fût harmonique et qu'elle donnât à penser.
Alors, vos chiens rouges, vos ciels roses?
Sont voulus absolument. Ils sont nécessaires, et tout dans mon œuvre est calculé, médité longuement. C'est de la musique, si vous voulez.
Une vie, une œuvre, Gauguin, 1848-1903, ou le mystère éclatant de la couleur pure, par Pascal Lismonde et Jean-Claude Loiseau.
Alors, cette femme de la mer, tahitienne, vue de dos, et qui nous transpose d'emblée à Tahiti, donc grand séjour de Gauguin, Françoise Cachin.
Ça, nous sommes en 92, il est arrivé il y a très peu de temps à Tahiti. C'est donc un des tableaux de la première année, qui est très étonnant, mais là aussi, qui n'aurait jamais pu faire sans le séjour à Pont-Aven. On retrouve exactement ces grandes plages de couleurs, totalement irréalistes, parce que cette plage jaune qui fait penser à un sable doré, à ma connaissance, à Tahiti, je n'en ai jamais vu. Le sable est plutôt noir, volcanique, triste. La mer n'a évidemment pas des rouleaux aussi forts tout près, puisque il n'y a pas de. Donc c'est assez irréaliste, sauf ce dos de femme qui évidemment est tout à fait étonnant, qui fait tout le tableau. Ce grand dos brun, musculeux, un peu asexué, qui en fait un morceau assez extraordinaire dont on ne peut pas s'empêcher de penser que Matisse, quand il a fait sa série des dos en bronze, a vu quelque chose comme ça avec le creux, la colonne vertébrale en creux de façon très forte. C'est très impressionnant et je suis persuadée, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais que Matisse a vu ce tableau.
La nature, la vérité, ce n'est pas plus Rembrandt, Raphaël, Botticelli que Bouguereau. Savez-vous ce qui sera le comble de la vérité bientôt? C'est la photographie, quand elle rendra les couleurs, ce qui ne tardera pas. Et vous voudriez qu'un homme intelligent sue pendant des mois pour donner l'illusion de faire aussi bien qu'une ingénieuse petite machine? Mais en sculpture, c'est la même chose. On arrive à faire des moulages parfaits sur nature. Un mouleur adroit vous fera comme ça une statue de Falguière quand vous voudrez.
Des chevaux rouges, des ciels roses, mais aussi des arbres verts crus, des ombres bleues, ou le jaune d'un sable luminescent. Gauguin est le premier à oser sur la toile le triomphe de la couleur pure, affranchi de la tutelle du réel. On suivit les Nabis, les Fauves, et Matisse, et Picasso, et Léger, et tous ceux qui ont surgi, après Cézanne aussi, pour composer le bouillonnement d'un XXe siècle naissant. Mais si les vaïnés de Gauguin, en reproduction multiple, continuent à rayonner sur les murs de nos maisons, ce n'est pas pour la seule séduction des fleurs bigarrées sur leurs longs cheveux noirs et leur peau brune. Derrière l'exotisme facile de cet ailleurs, à l'autre bout des mers, derrière les images paradisiaques de la nonchalance insulaire, on pressent un long chemin lourd de sens. Le petit-fils de Flora Tristan, la révolutionnaire, est une âme en perpétuelle rupture. Comment peut-on mettre autant de mystères dans autant d'éclats? Interroge l'ami Mallarmé devant l'étoile de Gauguin. Ce qui fascine dans ces femmes hiératiques, c'est qu'elles semblent faire corps avec la nature entière, celle où Gauguin cherche notre âme primitive. Et ces vaïnées sont alors autant de figures animales, figées comme des idoles, évoquant le mystère de notre origine et de notre avenir, dit-il. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? « Où allons-nous ? » interroge l'une de ses plus grandes compositions tahitiennes. Question brûlante, plus jamais résolue, et qui parcourt toute son œuvre. Une œuvre payée au lourd prix de sa vie. En peinture, commence une ère nouvelle.
Martha Di Giacomi, alors nous sommes avec vous dans cette exposition grande rétrospective Gauguin, devant l'un des tout premiers tableaux de l'exposition qui représente un paysage qui date de 1873 et c'est vraiment le tout début de la peinture pour Gauguin, parce qu'on sait qu'il y vient assez tard déjà, ça dépasse son premier métier, puisqu'il est agent de change d'abord, et c'est une vocation tardive en quelque sorte pour lui. Et en fait, la peinture, il y vient comment ? Ce sont des rencontres avec des peintres, c'est des rencontres avec des marchands aussi pour lui.
Oui, en fait, vous savez que Gauguin est rentré à Paris donc définitivement en 1871. Il était pris en charge d'un tuteur de la famille, justement par Gustave Arosa, qui était en fait très involved, très impliqué dans le milieu des collectionneurs. Et vous savez que Gustave Arosa avait lui-même une très belle collection, bon, notamment 19e siècle, de la croix Géricault, mais aussi de superbes coraux, Courbet. Et alors, c'est lui qui va donner le goût à Paul Gauguin, à la peinture. Bon, en plus, c'est Gustave Arosa qui a trouvé un superbe travail à Paul Gauguin. Donc, Gauguin va travailler pendant plus de 10 ans à la Bourse de Paris. D'ailleurs, c'est la seule période de sa vie où il va se gagner suffisamment d'argent, ce qui lui permettait aussi d'acheter lui-même, au départ, ses propres toiles, justement à la galerie Lafitte, juste à côté de la Bourse. Il avait une galerie qui déjà exposait les pré-impressionnistes, entre autres, mais aussi un peu plus classique, Corot, Courbet, Delacroix, etc. Et alors Gauguin avait le temps de s'arrêter régulièrement à cette galerie. Et vous savez que Gauguin avait une sacrée collection privée. Il possédait pas moins que 9 toiles de Pissarro, 5 superbes œuvres paysages de Paul Cézanne, 1 ou 2 Corot, Courbet. Et en plus, c'est vrai que Gauguin commence à se passionner à faire la peinture lui-même. Mais vous savez qu'il débute comme ce qu'on appelle un pur peintre du dimanche, qui faisait cela. Après son travail ou ses dimanches de congé. Et c'est vrai, ce paysage de 1873, c'est le paysage qui ouvre notre exposition. C'est un paysage très représentatif pour cette période de jeunesse de Gauguin.
Alors, très classique dans sa facture, c'est de...
Absolument.
On est loin du Gauguin que l'on va connaître
complètement 20 ans plus tard. Loin. C'est vrai, lorsque d'ailleurs je remarque souvent les visiteurs qui s'arrêtent devant cette toile sont vraiment époustouflés de constater que Paul Gauguin a aussi peint ce genre de tableau. Alors, c'est vrai que nous sommes devant un paysage où on remarque donc la profondeur de champ présente, un paysage où la facture picturale est très soignée, très lisse, au premier plan des champs d'agriculture, avec un ciel plein de nuages au fond. Et en fait, c'est un paysage qui est très imprégné par l'école de Barbizon, est très influencé aussi par le style de Camille Corot. Donc c'est ainsi que Gauguin débute dans sa peinture, donc en 1873.
Alors ici intervient un personnage dont il faut dire un mot, parce qu'elle va quand même jouer un rôle essentiel dans la vie de Gauguin, même par défaut d'une certaine manière. Il s'agit de Mette Gauguin, cette femme, cette Danoise qu'il avait épousée.
Alors là, maintenant, on va commencer la toute première grande difficulté de notre Paul Gauguin, qui n'était mais pas du tout accepté par sa belle famille à Copenhague. N'est-ce pas? Déjà, qui le considérait comme un artiste, un bohème, quelqu'un qui essayait de nourrir une famille avec 5 enfants en vendant des tableaux. C'était pas sérieux, surtout que Mette était issu d'un grand milieu bourgeois à Copenhague. En plus, le heurt des mentalités, n'est-ce pas? Gauguin, avec son caractère exalté, arrive dans ce milieu de protestantisme luthérien. Ça ne marche pas du tout, mais vous savez que Gauguin avait aussi son caractère. Il voulait prouver qu'il était capable d'exposer, qu'il était capable de peindre. Alors, il va déjà organiser à Copenhague une exposition avec ses peintures, mais une exposition complètement ratée qui fut visitée par personne, mais vraiment par personne. Et voilà ce désarroi, n'est-ce pas, cette heurte des mentalités se reflète justement dans certaines toiles, comme cette très étrange nature morte dans un intérieur. Regardez déjà, c'est vrai que la composition, le schéma de composition est excessivement complète avec plusieurs plans qui se superposent, mais regardez cette atmosphère pesante, lourde, toute absence de communication, très lugubre. Vous savez, on peut très bien tirer des parallèles avec les pièces de théâtre de Ibsen, n'est-ce pas, Maison de poupée ou de Strindberg,
n'est-ce pas, même qui n'aimait pas du tout la peinture de Gauguin.
Non, pas du tout. En plus,
parler de tohu-bohu ensoleillé.
Absolument. En plus, même le cinéma de Ingmar Bergman, c'est vrai, c'est très scandinave, n'est-ce pas. Et c'est, je pense, c'est une partie de Gauguin qui est un peu moins moins connus en France. Regardez, par exemple, n'est-ce pas, au fond du tableau, 5 personnages tournent le dos au spectateur, regardent à travers la fenêtre, ne communiquent pas entre elles, regardent probablement une scène de funérailles, puisque de l'autre côté du fenêtre, un peu dans le flou, on aperçoit en char, justement, en char qui a l'air justement d'être donc une sorte de funéraille. Mais surtout, au premier plan, vous avez une très étrange nature morte avec justement une très belle source de lumière, n'est-ce pas? Plusieurs pigeons crevés, n'est-ce pas? À côté des oignons qui sentent mauvais, un panier vide, n'est-ce pas? Nous sommes très loin des belles natures mortes de l'école flamande du 18e, 17e siècle. Mais très intéressante aussi, déjà la partie droite, cette tapisserie qui annonce les éléments d'art nouveau, les arabesques, les motifs floraux. Et regardez tout en haut, en fait, tout en haut à droite, Gauguin appose comme par hasard sa signature sur ce tableau, n'est-ce pas, en fait, et qui veut pas mal présumer les choses. Alors justement, cette ambiance très nordique, je peux vous dire, moi, en tant que Danoise, j'ai moi-même aussi vécu ces scènes de silence, n'est-ce pas? On n'a pas le droit souvent de s'exprimer, les enfants doivent se taire, notamment à mon époque, il y a 30, 35 ans en arrière. Je me rappelle que j'étais en fait presque élevée dans un même intérieur, n'est-ce pas? Avec ces grands rideaux, avec ces tapisseries excessivement lourdes. Et je me rappelle très bien, mais ma tante, par exemple, au Danemark, passait quasiment ses journées entières devant la fenêtre en train d'observer ce qui se passait dehors. Donc c'est tout à fait, c'est très, très nordique, très scandinave, ce que Gauguin nous peint à ce moment-là, donc en 85, lors de son séjour à Copenhague.
Ah, je souris à votre idée d'aller chez Durand-Ruel. Mais le bonhomme a une peine infinie à flotter, et le tout petit peu qu'il fait pour les Pissarro et autres, ce n'est pas par amitié, mais plutôt parce qu'il en a pour près d'1 million, et qu'il a peur que les peintres impressionnistes avilissent la marchandise en vendant à tout prix. Vous comprenez bien que ce sacré jésuite se fiche de moi dans la misère comme de Colin Tampon. Si vous voyez Guillaumin, dites-lui que dans ce moment, une lettre de lui me ferait plaisir. Quand je reçois une lettre de France, je respire toujours un peu. Voilà 6 mois que je ne parle. L'isolement le plus complet. Naturellement, pour la famille, je suis un monstre de ne pas gagner d'argent. À notre époque, on estime que celui qui réussit... À Émile Schouffenecker, 14 janvier 1885, Copenhague.
Yann Le Pichon, peut-être pouvons-nous commencer à envisager la vie et l'œuvre de Gauguin à partir d'un commentaire que vous feriez de ce tableau que nous avons sous les yeux, donc qui est la nature morte à l'estampe japonaise. De quand date le tableau déjà ?
Le tableau date de 1889, il est actuellement au musée de Téhéran, il a été prêté à la fondation Giannada. Et ce tableau est très important en effet parce qu'il représente une nature morte avec 2 éléments essentiels. Sur la table rose d'un rose vibrant comme les couleurs de Cézanne, cette touche pénétrante que Gauguin a adoptée de Cézanne et dont Cézanne a dit qu'il lui avait volé cette petite sensation. Il est passé d'un impressionnisme vibrant sur le plan des touches parallèles à des touches plus profondes. Et on a cette nappe rose, ce rose qui tire vers les mauves parfois et qui appartient en propre à Gauguin, je crois, avec quelques feuilles posées sur la nappe. Donc au premier plan sur cette table, on aperçoit à droite un vase anthropomorphe que Gauguin lui-même fait parce qu'en rentrant de la Martinique en 1887, il s'est passionné pour la céramique et grâce à Chapelet, il a pu composer des œuvres assez originales inspirées des arts péruviens et qu'il a connu dans son enfance à Lima. Et ce profil d'Indien qui est représenté là permet à Gauguin d'affirmer ses origines primitives, sauvages, de mots qu'il emploie très souvent pour commenter son œuvre, et qui de race pure et de race très primitive.
Oui, il se dit toujours à la fois indien et sensitif. Enfin, il fait toujours cette opposition entre ces deux aspects de sa nature.
Oui, et il va falloir en parler car c'est d'une grande importance. importance, mais peut-être puis-je terminer le commentaire du tableau, dire qu'il y a un fond jaune, car il revient d'Arles où il a fait un essai de rencontre avec Vincent Van Gogh. Pourquoi ? Parce que son frère Théo est marchand de tableaux chez Bousseau-Valadon à Paris et que Gauguin est persuadé qu'il va enfin pouvoir vendre ses œuvres grâce à Théo Van Gogh. Et Van Gogh l'invite donc en Arles, où il veut créer un atelier du Midi. Or Gauguin, fasciné qu'il est par le soleil et par l'empire du soleil levant qu'est le Japon. Et on le voit bien dans l'estampe japonaise qui est sur le mur de fond de cette nature morte, mur jaune comme la maison d'Arles que Van Gogh avait peinte entièrement jaune pour accueillir Gauguin. On aperçoit une estampe japonaise qui représente un acteur japonais du théâtre Kabuki. Et si l'on réfléchit bien à cette nature morte, on voit là tout un symbole de la profonde vocation de Gauguin, qui est de retourner à l'humanité dans son enfance, il le dit très clairement, double enfance, celle de l'humanité, les arts primitifs, la sienne propre. Car c'est dans sa propre enfance qu'il découvre ces fantasmes, cet imaginaire, cette capacité d'émerveillement et cette intériorité, imaginative très grande.
Alors on est en 89, c'est avant évidemment les grands départs. C'est un tableau qu'on peut situer dans l'histoire de l'art à mi-chemin entre Cézanne et Matisse. Enfin, ça fait penser, à la fois on voit tout ce qu'il doit à Cézanne, tout ce que Matisse lui devra. Je trouve que c'est un tableau enchanteur.
Et juste à côté, il y a également un autre chef-d'œuvre de Gauguin, qui celui-là vient du musée d'Orléans.
Alors là, c'est un chef-d'œuvre total pour qui, au sujet duquel je pourrais faire le même discours, qui est peut-être même plus dense et plus fort que celui dont on vient de parler, qui s'appelle la fête Gloeneck, et qui représente une table de café sur laquelle il y a un crabe, des fruits, des fleurs, sur fond rouge, qui avait été donné à la pension Gloeneck, à la dame qui tenait la pension Gloeneck où il était en 88, à Pont-Aven. Et qui est d'une force, là aussi on pense à l'art japonais, mais qui est d'une force de couleur et d'un charme extraordinaire. Mais c'est un tableau étonnant.
Et un tableau étonnant. Effectivement...
Exotique, très exotique, avant l'exotisme.
Et cet usage des couleurs, précisément, qui est de plus en plus violent chez Gauguin, et qui sera aussi l'une de ses grandes marques, une grande marque de sa propre peinture.
Et en même temps audacieux, parce que regardez, cette grande plage rouge, qui est le fond, qui est la petite table de café, qu'il a peinte en rouge, qui n'était certainement pas rouge, avec cette masse orange. Mettre un orange et un rouge à côté, c'est quand même audacieux. C'est très beau. Et c'est très réussi. Ça pourrait être affreux, c'est extraordinairement réussi. Comme dans le tableau de Téhéran, ce rose et ce jaune, tous les deux un peu acides, c'est assez étonnant. Gauguin était un coloriste supérieur, extraordinaire, imaginatif. C'est une de ses grandes forces.
Vous me demandez, ou plutôt vous dites qu'on ne comprend pas du tout mon bois. Mais cependant, il est simple. Il y a un nu de femme, un homme, un renard et une inscription. Est-ce tout ? Puisque vous en désirez la littérature, je vais vous la donner, pour vous seulement. En haut, la ville, Babylone, pourrie. En bas, comme par une fenêtre, la vue des champs, la nature avec ses fleurs. Une simple femme qu'un démon prend par la main, et qui se défend malgré le bon conseil tentateur de l'inscription. Un renard, symbole chez les Indiens de la perversité. Plusieurs figures dans tout cet entourage qui expriment le contraire du conseil. Vous serez heureuse pour indiquer qu'il est mensonger. Pour ceux qui veulent de la littérature, en voilà. Mais ce n'est pas à examiner. Le fond de tout cela, c'est l'art sculptural du bas-relief. Formes et couleurs dans le caractère de la matière, entre le possible et l'impossible. De même, dans le tableau des trois femmes de Pierre tenant le Christ. Bretagne, superstition simple et désolation. La colline est gardée par un cordon de vaches disposé en calvaire. J'ai cherché dans ce tableau que tout respire, croyance, souffrance passive, style religieux primitif et la grande nature avec son cri. J'ai tort de ne pas être assez fort pour l'exprimer mieux, mais je n'ai pas tort de le penser. Et avec cela, nos autres pauvres diables sans logis, sans modèle, nous ressemblons à des virtuoses qui jouent dans un café sur un piano chaudron. À Théo Van Gogh, Le Pouldu, 20 novembre 1889.
Claire Fraîche, je voudrais aborder avec vous un aspect mal connu de l'œuvre de Gauguin. Il s'agit de la céramique. Si j'en crois une lettre qu'il écrit à sa femme en décembre 1886, il dit par exemple « Je fais de la céramique ». Schuffenecker, son ami, donc, dit que ce sont des chefs-d'œuvre, et le fabricant aussi, mais c'est probablement trop artistique pour être vendu. Alors, cette céramique tient une place importante dans l'œuvre de Gauguin ?
Ces premières céramiques reprennent des sujets de ces toiles bretonnes. On y voit des bretonnes en coiffe, des bergères, des oies, des animaux. Il a commencé par tourner des vases dans l'atelier de Chapelet et à les décorer de scènes de bretonnes, comme par exemple dans le vase émaillé qui se trouve au musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Et Gauguin a dû progresser en pratiquant l'art de la céramique vers ce qu'on a appelé plus tard son cloisonnisme, qui est très sensible, par exemple, dans ses peintures bretonnes, comme la Belle Angèle du musée d'Orsay. Parce que le décor de la céramique lui obligeait à inciser la terre pour déposer les couleurs et faire des engobes et des décors. Il a commencé à cloisonner ses plages de couleurs et ceci a fortement influencé sa peinture.
Mais on y retrouve aussi des thèmes dont vous parliez de l'influence, enfin des correspondances que l'on peut faire avec les tableaux. Je vois par exemple un vase avec masque de femme, un vase au visage de femme et aux fleurs. Il y a pas mal de céramiques qui reprennent des sujets anthropomorphiques. Aussi.
Oui, il a été très marqué par la céramique péruvienne, dont sa mère possédait une collection importante qui a malheureusement été détruite dans l'incendie de sa maison de Saint-Cloud. Vous savez que Gauguin était d'ascendance péruvienne par sa mère.
Qui va même faire un séjour dans sa petite enfance.
Dans sa petite enfance, oui, il va à Lima retrouver sa famille à la suite de la mort de son père. Et il sera très tôt en contact avec des céramiques anthropomorphes péruviennes. Et un peu plus tard, il en verra également dans la collection de son tuteur Gustave Arosa. D'où la floraison dans sa production de peaux à tête anthropomorphe, comme par exemple le vase qui représente Jeanne Schuffenecker ou Madame Schuffenecker dont la tête est surmontée d'un serpent, la tentatrice.
Et est-ce qu'il explique lui-même l'interaction qu'il peut trouver entre la démarche picturale même et le travail de la céramique ?
Il est resté assez discret sur ses céramiques. Il a plutôt donné des éléments biographiques. Et on a un exemple très intéressant à cet égard dans l'autoportrait en forme de tête de grotesque qui est conservé au musée d'Orsay. Qui est en fait une grosse céramique, un pot à tabac, qui représente Gauguin lui-même, le visage tourmenté, le pouce dans la bouche dans une attitude infantile qu'on retrouve dans certains de ses bois sculptés à l'époque, et pour lequel il écrit qu'il a beaucoup souffert et que c'est une vision de Dante entrevue dans l'enfer.
Et Oviri, par la suite, va apparaître également sous forme de céramique, alors, Claire Fraîche ?
Alors, Oviri est une pièce tout à fait extraordinaire que Gauguin appelle une céramique sculpture. Il a mis beaucoup de lui-même dans cette œuvre, qu'il appelait la tueuse, et qui représente, dans une céramique qui est assez grande, elle fait environ 60 cm de haut, en grès émaillé, un corps de femme à la tête monstrueuse, qui terrasse un loup avec des coulées de sang sous ses pieds et qui écrase un louveteau dans sa main. Oviri, c'est le sauvage, c'est la partie primitive de Gauguin et en même temps son aspect tourmenté. Il a mis beaucoup de lui-même dans cette céramique sculpture et il écrit à Daniel de Monfred qu'il voudrait la voir avec lui à Tahiti, pour plus tard la mettre sur sa tombe. Et en fait, l'œuvre est entrée dans la collection de Gustave Fayet, qui était un grand amateur de Gauguin. Et finalement, un plâtre d'Auviry a été gardé. Et d'après ce plâtre, on a fondu un bronze qui est aujourd'hui sur la tombe de Gauguin.
Dès 1886, il rencontre un tout jeune peintre qui s'appelle Émile Bernard, qui vient de Paris. Il a d'ailleurs une sœur dont Gauguin s'éprend. Et Émile Bernard, sous l'influence d'Anquetin, des estampes japonaises et naturellement des vitraux, est en train d'inventer le cloisonnisme et le synthétisme. Qu'est-ce que c'est que le cloisonnisme ? C'est de cerner les formes dans la peinture. Et ces cernes sont inspirées par les remplages des vitraux, naturellement, mais par aussi les estampes japonaises. Les grandes estampes du 19e japonaises sont très cernées. Et ce cerne permet de regrouper les couleurs, de les mettre en synthèse, c'est-à-dire en aplat, et non plus en vibration. Alors Gauguin
Qui était la tendance impressionniste.
Qui était la tendance impressionniste, naturellement. Gauguin venait de l'impressionnisme, n'avait fait que cela pratiquement, bien qu'il ait été au début aussi de sa carrière de peintre, autodidacte, influencé par Manet. Il y a une influence de Manet importante au début de son œuvre. Et Manet, quand même, est le précurseur de l'impressionnisme dans une certaine mesure. Bon, revenons à ces synthétismes et à ce cloisonnisme. Il va progressivement donc adopter, sans pour autant renoncer à l'impressionnisme, qui sera utilisé tout au long de sa vie dans des tableaux même très synthétiques, donc à plat, très francs de couleurs très fortes. Il y a des touches d'impressionnisme, ça et là, notamment dans le paysage environnant. Donc il n'est pas, ce n'est en aucun cas un théoricien de l'art. Il est très empirique dans sa manière de peindre. Et s'il adopte ce synthétisme, c'est qu'il y a une raison. Gauguin était très orgueilleux, avait échoué dans sa rivalité avec Monet et Renoir, et donc voulait à tout prix se singulariser par rapport à ses impressionnistes. Il y a aussi cela.
Et en même temps, se détacher de Pissarro. Aussi.
Se détacher d'eux, mais se singulariser dans une certaine mesure pour leur fiche plein la vue. Bon, il y a un peu l'envie d'être un chef de file. Très vite, on s'aperçoit à Pont-Aven, où affluent d'ailleurs de très nombreux peintres, soit réalistes académiques du 19e, des Américains, des Scandinaves, mais aussi quelques tout jeunes qui sont fascinés par la stature, l'audace, la force et la conviction qu'a Gauguin. Et Émile Bernard va l'aider à cheminer, et puis ensuite Émile Bernard, se rendant compte que la personnalité de Gauguin est si grande qu'il l'écrase, se révoltera contre Gauguin.
Si je reprends vos propres termes, Yann Le Pichon, pour lui, cette arrivée à Pont-Aven, c'est franchir le Rubicon.
C'est franchir le Rubicon, c'est franchir l'Aven, et cette Aven est entourée d'énormes rochers de granit, et il dit cette expression que je trouve très belle, je voudrais rendre dans ma peinture le son sourd, mat et puissant que mes sabots, parce qu'il se déguise en breton, il porte un gilet breton, il porte des sabots de bois qu'il sculpte d'ailleurs, que mes sabots font retentir sur le granit breton. Donc,
C'est intéressant pour nous en particulier, cette correspondance entre le son que rend un sabot et éventuellement des teintes mates, enfin une couleur mate. Comment peut-on justement traduire un son par la couleur ?
Eh bien, il le dit lui-même, la couleur qui est vibration de même que la musique est à même d'atteindre ce qu'il y a de plus général et pourtant de plus vague dans la nature, sa force intérieure.
J'aime la Bretagne. J'y trouve le sauvage, le primitif. Quand mes sabots résonnent sur ce sol de granit, j'entends le ton sourd, mat et puissant que je cherche en peinture. Mes forces sont revenues. Aussi, je viens de faire quelques nus dont vous serez content. Et ce n'est pas du tout des Degas. Le dernier est une lutte de deux gamins près de la rivière, tout à fait japonais, par un sauvage du Pérou. Très peu exécuté, pelouse verte et le haut blanc. Émile Schuffenecker, 8 juillet 1888, Pont-Aven.
Martha de Giacomi, alors cette fois devant des enfants luttants, un tableau de Gauguin de 1888. Là, il y a déjà eu quelques séjours à Pont-Aven et vraiment apparaît cette nouvelle manière de Gauguin. Comment pourrait-on la définir ?
Alors tout à fait, donc Gauguin arrive dès février 88 pour la deuxième fois à Pont-Aven. Alors cette fois, justement, il se trouvait entouré de toute une équipe de peintres comme Maurice Denis, comme Émile Bernard, comme Paul Sérusier. En fait, tous ces peintres avaient le même désir d'exprimer des idées profondes à travers leur peinture. Et Paul Gauguin, qui était quand même pas mal plus âgé que, par exemple, en Paul Sérusier, qui n'avait que 19 ans, n'est-ce pas, ou bien Maurice Denis, qui avait à peine 20 ans, n'est-ce pas, Paul Gauguin était considéré comme leur conseiller, comme une sorte de chef de file. Alors, il expliquait à ces jeunes peintres comment aborder un sujet. Il leur disait, par exemple, lorsque vous voyez un paysage ou bien des personnages, vous imprégniez le sujet dans vos têtes, ensuite, vous en rêvez dessus pour ensuite en tirer les sens. Donc, il fallait maintenant de s'éloigner au maximum d'une représentation fidèle du sujet sur la toile. Alors, on remarque maintenant que le schéma de composition change complètement, n'est-ce pas ? Les compositions s'organisent à partir de larges aplats de couleurs, des couleurs souvent très intenses, de préférence sorties directement du tube. On remarque aussi dans ce tableau Enfant luttant, abandon de la perspective traditionnelle, qui ici est remplacée par la diagonale dans la partie supérieure de la toile.
C'est-à-dire qu'en fait, ce qui frappe tout d'abord, c'est que ces deux enfants qui font un corps à corps, donc de lutte, se détachent sur un plan vert absolument extraordinaire,
oui.
Donc un pré. Mais ce vert a une présence tout à fait étonnante, parce que c'est rare de voir une telle surface quasiment plate,
oui.
Donc d'une seule couleur dans la peinture de l'époque.
Tout à fait. Mais c'est vrai que justement, les peintres symbolistes, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, n'est-ce pas? Ils mettent l'accent donc sur la couleur avant la forme, avant le détail. Et regardez, en fait, ce qui est aussi très typique pour cette nouvelle peinture, n'est-ce pas? Cette vision depuis en haut, cette vue plongeante dont l'influence des estampes japonaises, n'est-ce pas? À partir desquelles beaucoup d'artistes s'inspirent à ce moment-là. Et alors, il semblerait que Paul Gauguin, pour ce motif enfant luttant, s'inspire d'une gravure de Hokusai, où Hokusai a peint deux énormes gros samouraïs en train de lutter, mais il transpose ce sujet japonais dans un contexte tout à fait breton, car regardez, au premier plan, légèrement à droite, vous avez le costume breton typique, la chemise bleue brodée, ainsi que le chapeau noir.
« Je veux fuir Paris, qui est un désert pour l'homme pauvre », écrit Gauguin à sa femme. Avril 1887, il s'embarque avec son ami Charles Laval pour le Panama, où l'on construit le canal. Il y travaille un moment, comme terrassier. Mais il refuse de faire des portraits, même s'ils sont bien payés. Ils sont à l'encontre de son style. Gauguin part alors pour la Martinique, au moins pour 6 mois. Il cherche à exprimer la force intérieure de la nature dans la vibration de la couleur. Pour le peintre, une suite de ses découvertes de Pont-Aven. Yann Le Pichon.
On peut dire que la Bretagne, certes, commence à le rendre un peu plus audacieux par le synthétisme, mais que les couleurs exotiques forte, chaleureuse, violente même, il commence à les découvrir à la Martinique. Et on peut dire aussi qu'il est l'un des précurseurs du fauvisme, bien sûr, Van Gogh, plus que lui, peut-être. Mais on peut penser que Van Gogh, Vincent, qui le découvre grâce à son ami Émile Schoufnecker, à son retour de la Martinique, et qui tombe à genoux devant ses œuvres de la Martinique, qui sont peu nombreuses, une vingtaine, et qui dit à Théo, il faut que tu connaisses Gauguin, c'est vraiment d'une douceur, en même temps d'une vivacité. Et on pourrait résumer l'impression que fait Gauguin à ce moment-là par le mot de Mallarmé, comment peut-on mettre tant de mystères, dans tant d'éclats. Cette double vocation, à la fois colorer la couleur, il faut tout lui sacrifier, dira-t-il, et en même temps, il faut tout sacrifier à cette vie intérieure et adopter, faire de l'art sa propre vie. Gauguin est le premier peintre maudit. Bon, Vincent Van Gogh aussi, mais Vincent, c'était sa folie, peut-être, dans une certaine mesure. Tandis que Gauguin, c'est un choix quasi religieux de faire se confondre l'art et sa vie. C'est pourquoi ce passage aux Antilles, à la Martinique, a cette importance dans sa vocation d'aller outre-mer et de plus loin possible de la civilisation européenne pour se ressourcer aux sources mêmes de l'humanité, c'est-à-dire à la relation avec l'esprit.
Toutes ces choses qui sont proches du cœur me touche plus que je ne saurais le dire malgré toute la peine que je prends pour fermer mon cœur. Quant aux coteries qui hurlent devant mes tableaux, cela me fait peu de choses. D'autant plus que moi-même, je sais que c'est incomplet. Plutôt, un acheminement à des choses pareilles. Faut en faire le sacrifice en art, période par période, essai ambiant, une pensée flottante sans expression directe, définitive. Mais bon, une minute où on touche le ciel qui fuit après. En revanche, ce rêve entrevu est quelque chose de plus puissant que toute matière. Ouais, nous sommes destinés artistes, chercheurs et penseurs à périr sous les coups du monde, mais périr en tant que matière. La pierre périra, la parole restera. Nous sommes en pleine mélasse, mais nous ne sommes pas encore morts. Quant à moi, ils n'auront pas encore ma peau. Si je pense obtenir ce que je demande en ce moment, une bonne place au Tonkin, où je travaillerai ma peinture et ferai des économies. À Émile Bernard, juin 1890, Le Pouldu.
Gérard Garouste, quand on est un peintre comme vous, un peintre qui a déjà une certaine notoriété, est-ce que l'on se penche sur les illustres aînés, et en particulier sur Gauguin ? Est-ce qu'on essaie de retrouver certains itinéraires ou certaines démarches picturales très précises ?
C'est aujourd'hui, la peinture ne s'inspire pas spécialement de la nature. Le sujet, c'est pas la nature. Le sujet de la peinture, c'est la peinture elle-même. Donc, il est évident que quand on peint aujourd'hui, il faut pas être amnésique, il faut regarder des classiques et il faut regarder des peintres aussi proches que ceux autour de 1850. C'est une période extrêmement importante.
Pourquoi est-elle importante ? Parce que c'est une période de rupture ?
Rupture, mais importante parce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'avant-garde est en crise. On est en 1998. Et l'idée même d'avant-garde est née autour de cette époque, entre Pissarro, Gauguin, Van Gogh, jusqu'à Picasso. Là, le mot avant-garde avait un vrai sens, et c'est là que s'est défini le nouveau sujet de la peinture. Dans l'époque classique, le sujet de la peinture, c'était la nature, ou les dieux, ou les mythologies et autres. Avec ces peintres de cette époque, tout d'un coup, le sujet, ça va devenir finalement l'artiste lui-même. C'est très net avec un peintre comme Pissarro, où la critique de l'époque, c'était de quand il avait fait un paysage. Il y avait une critique qui avait dit, mais enfin, ce paysage, on voit l'ocre jaune, on voit que vous avez employé de l'ocre jaune pour faire le sol. Et ça, c'est une remarque très très importante, parce que si l'ocre jaune employé par Pissarro n'est plus vécu comme de la terre, une illusion de la terre, l'illusion de la peinture, mais comme pâte sortant du tube qui appartient à l'artiste, là tout d'un coup, on touche à un nouveau sujet où c'est l'artiste lui-même qui se met en scène, et le sujet du tableau, c'est le peintre.
Pourtant, Gauguin lui-même va se démarquer peu à peu des impressionnistes, et de Pissarro en particulier, puisque on sent bien que toute sa démarche, enfin, qui est très nettement inspirée par cette école, enfin, par ce mouvement-là à l'origine, va se trouver vraiment aux antipodes, parce qu'il va lui-même il va considérer que les impressionnistes sont trop dans le contour, dans la représentation, alors que lui-même veut aller, dit-il, vers le centre spirituel de la pensée.
Oui, oui, oui. Vous savez, il y a un énorme courage. Moi, je crois qu'on a oublié le courage des artistes de cette époque. Parce que aujourd'hui, maintenant, on est tout à fait bercé par le rond de l'avant-garde qui consiste à toujours vouloir surprendre et plus personne n'est surpris. Et vous pouvez faire n'importe quoi. Aujourd'hui, ça choque absolument personne. Alors qu'à cette époque-là, c'était très très choquant. Les Christ peint par Gauguin, mais c'est on a tout de suite envie de dire, mais enfin, un enfant de 4 ans, c'est l'expression, un enfant de 4 ans pourrait en faire autant. Et il faut beaucoup de recul pour en apprécier la valeur esthétique ou la réinvention esthétique qu'il y a à travers cette peinture. Il y a une vraie folie, et je suppose qu'ils ont sincèrement beaucoup souffert. Cette génération de peintres a beaucoup souffert en faisant ces peintures qui sont si maladroites, maladroites d'un côté pour mettre en valeur autre chose. Par exemple, maladroites dans le style pour mettre en valeur le sujet de la technique. On n'insistera jamais assez sur l'importance de la technique. C'est un peu un paradoxe parce que on a envie de dire, mais si on ne voit que de la technique chez un peintre, mais ça veut dire qu'il est mauvais, alors il s'est pas débarrassé de la technique. Mais c'est ça, il y a une espèce de folie qui ira jusqu'à Picasso sans problème. Il faut voir ce que fait Picasso et l'héritier direct de cette... Picasso n'est pas l'héritier des impressionnistes. Il est l'héritier de ce que les impressionnistes faisaient de la peinture.
Mais quand vous parliez du Christ, je pense au Christ jaune, justement, oui. de Gauguin, il y a effectivement une sorte de simplification extrême des traits qui pourrait être considérée comme naïve, comme effectivement oui. une peinture enfantine. Mais en même temps, on a l'impression qu'il va une sorte d'essence, en fait,
c'est sûr. Du sujet. Et sa métaphysique, la métaphysique n'est pas dans l'idéal de la représentation. Il s'est bien sûr débarrassé de la représentation. C'est pas hasard si on est à l'époque où il y a les premières photographies. C'est-à-dire que grâce à la photo, la peinture se débarrasse définitivement de la représentation. Et on a bien compris, les peintres ont bien compris qu'un tableau, c'est toujours de l'ordre du symbole, d'une transposition, d'une interprétation, mais plus de représentation. Donc le Christ les Christ de Gauguin, l'idée c'est de pas tomber dans du réel et dans de la représentation romantique ou autre, mais c'est au contraire, là tout d'un coup, la dimension spirituelle, elle est dans les faits du tableau lui-même, ou dans la mise en scène entre le peintre et son tableau, une sorte même, on pourrait presque dire, d'échec volontaire, comme ça. Il y a toujours une dimension de l'échec dans la peinture, et ça depuis la nuit des temps. Mais évidemment, avec cette rupture de la peinture moderne et de cette époque-là, c'est encore plus évident. En fait, les peintres sont toujours connaissent leurs faiblesses, et les grands peintres sont ceux qui font avec leurs faiblesses, pas avec leurs forces, parce que avec ce qu'ils maîtrisent bien, ils ne sont que habiles. Et un artiste, le problème n'a rien à voir entre l'habileté et l'art. L'art, c'est de surpasser son échec, pas de surpasser sa réussite.
Voilà déjà 20 jours que je suis arrivé. J'ai déjà tant vu de nouveau que je suis tout troublé. Il me faudra encore quelque temps pour faire un bon tableau. Petit à petit, je m'y mets en étudiant chaque jour un peu. Je t'écris le soir. Ce silence la nuit à Tahiti est encore plus étrange que le reste. Il n'existe que là, sans un cri d'oiseau pour troubler le repos. Par-ci, par-là, une grande feuille sèche qui tombe, mais qui ne donne pas l'idée du bruit. C'est plutôt comme un frôlement d'esprit. Les indigènes circulent souvent la nuit, mais pieds nus et silencieux. Toujours ce silence. Je comprends pourquoi ces individus peuvent rester des heures, des journées assis sans dire un mot et regarder le ciel avec mélancolie. Tous ces gens-là vont partout dans n'importe quel village, n'importe quelle route, couchent dans une maison, mangent sans même dire merci, à charge de revanche. Et on les appelle les sauvages. Ils chantent, ne volent jamais, ma porte n'est jamais fermée, n'assassinent pas. Deux mots tahitiens les désignent. Yaorana, bonjour, adieu, merci. Et Onatu, je m'en fiche, qu'importe. Et on les appelle des sauvages. Ahmet Gauguin, juillet 1891, Tahiti.
Effectivement, en 1891, il entreprend son premier grand voyage sous les îles. Et donc, d'abord, Gauguin arrive à Papeete. Et vous savez, en fait, Gauguin s'était imaginé de trouver, de rencontrer des sauvages au milieu de la forêt tropicale. Mais déjà, Papeete, à l'époque, était une ville très développée avec des bâtiments en dur. D'ailleurs, nous avons exposé aussi les photos de l'époque. C'était impressionnant. N'est-ce pas, une ville qui était gouvernée par des administrateurs, par des gouverneurs, en plus peuplée de missionnaires qui interdisaient les rites aux ethnies. N'est-ce pas, et Gauguin, en fait, elle était très vite déçue. Mais c'est caché dans un endroit complètement sauvage, perdu, à 45 km de Papeete, justement à Mayaté. Hein. Et c'est là qu'il s'installe dans une case toute simple. C'est là aussi qu'il vit avec sa première vahiné. En fait, vahiné, n'est-ce pas? On ne peut pas traduire ce terme uniquement par femme des îles. N'est-ce pas? Vahiné, c'est beaucoup plus global, n'est-ce pas? Vahiné, ça peut dire aussi fille, maîtresse, aimante, tout cela. Et justement, c'est Théa Amana, 13-14 ans, qui rend notre Gauguin heureux. C'est elle qui le rajeunit. Et voilà, ça se sent aussi dans ses toiles. Déjà, on remarque dans les œuvres de cette première grande période tahitienne que les couleurs s'intensifient énormément, ce qui n'est pas étonnant. Car sous le soleil des tropiques, c'est vrai que les couleurs prennent une valeur tout à fait différente. En plus, les sujets, n'est-ce pas, Gauguin nous peint surtout des indigènes en pleine nature, suivant des activités tout à fait simples, naturelles, n'est-ce pas? Nous sommes ici confrontés à une scène de chasse, Irarote Oviri. En fait, la traduction entre parenthèses n'est pas tout à fait exacte. Sous les pandanus, en fait, Oviri veut dire d'une part sauvage, mais Oviri veut dire aussi chasse, et en même temps, Oviri incarne la déesse de la chasse.
Caprice, désir du fruit défendu. Elle sentait bon, elle était pareille. J'ai conscience que dans mon examen de peintre, il y avait comme une demande tacite de se livrer pour toujours, sans pouvoir se reprendre, une fouille perspicace de ce qui était au-dedans. Peu jolie en somme comme règle européenne, belle pourtant. Tous ses traits avaient une harmonie raphaélique dans la rencontre des courbes, la bouche modelée par un sculpteur, parlant toutes les langues du langage et du baiser, de la joie et de la souffrance. Cette mélancolie de l'amertume mêlée au plaisir, de la passivité résidant dans la domination. Toute une peur de l'inconnu. Portrait de femme. Vaine note tiare. Je travaillais vite, avec passion. Ce fut un portrait ressemblant à ce que mes yeux, voilés par mon cœur, ont aperçu. Je crois surtout qu'il fut ressemblant à l'intérieur. Ce feu robuste d'une force contenue. Elle avait une fleur à l'oreille qui écoutait son parfum. Noah.
Quand il décide de revenir en France en 1894, après son séjour à Tahiti, pour vendre ses toiles, il se dit que pour mieux les vendre, s'il arrivait à faire comprendre qu'il a une grande singularité parce qu'il a redécouvert les Maoris, les primitifs Maoris, il décide de faire un ouvrage qu'il écrit à bord du bateau, qu'il illustre d'aquarelles et de quelques photographies, et Il l'appelle Noa-Noa parce que c'est le surnom polynésien de Tahiti. Noa-Noa veut dire la parfumée. En effet, quand les premiers navigateurs arrivaient à Tahiti, ils sentaient l'odeur des plantes et des fleurs qui embaumaient leur arrivée. Et puis, ils étaient accueillis par des vahinés fleuris, dont les fleurs sont odorantes. Donc, Noa-Noa veut dire la parfumée. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il puise dans un livre de Morinout qui a essayé de recueillir en 1834, je crois, les traditions, la cosmogonie, les traditions mythiques et mythologiques des Maoris. Il tape dedans, il puise dedans complètement, hein, parce que lui, il a essayé d'apprendre le polynésien, mais il n'est pas du tout doué pour les langues et il y renonce assez vite. En fait, donc, sa connaissance de la cosmogonie polynésienne vient de l'ouvrage de Morinout, Voyage vers les îles du Pacifique, je ne me rappelle plus. Il ne fait que le piller, mais il l'accommode à sa propre sauce, si je puis dire, et cette sauce, qu'est-ce que c'est? C'est finalement l'inspiration, la vibration qui l'en retient. Et ces textes que vous avez, là, ceux de Noa-Noa, ne sont que des textes dans lesquels il a trouvé l'occasion de donner à sa peinture tahitienne, polynésienne, un caractère sacré. Il dénonce la pornographie des nus de l'art-pompier du XIXe siècle. Il peint lui-même des nus, parfois avec des pagnes, mais les poitrines nues et parfois complètement nues. On voit même des femmes faire leurs besoins au bord de la rivière et les prend de dos et on voit tous leurs attraits, si je puis dire. Mais il arrive à, justement par cette référence cosmogonique et mythique, à sacraliser. Et on peut dire que ce qui est la caractéristique profonde de cette œuvre de Tahiti et des Marquises, c'est le sacré. Et s'il puise ces textes, s'il se réfère à ces textes, c'est pour raviver en lui son sens inné du sacré.
Donc cette fois, dans la partie de dessin, de ces dessins de Gauguin, Françoise Cachin, nous sommes en présence d'une Ève tahitienne, Tenave Nave Fenua, qui a été esquissée, peinte en 1893 par Gauguin. Donc là, il est dans son séjour, son deuxième séjour à Tahiti.
Il est à Tahiti, mais c'est une gouache absolument ravissante, gouache ou aquarelle, ou les deux, absolument ravissante, que j'aime énormément pour plusieurs raisons. D'abord, elle est gracieuse, elle est merveilleuse, très jolie, c'est très jolie tahitienne, mais en réalité, c'est inspiré d'un relief de Borobudur. C'est-à-dire, comme toujours chez Gauguin, il y a derrière tout ce qu'il voit toute une culture qui est une culture exotique qui transparaît dans l'exotisme réel, qui en fait une chose absolument rêvée. D'une part, alors vous voyez, il y a toute une petite mythologie, elle tient une fleur et en même temps il y a une espèce d'animal qui grimpe derrière elle sur un...
Qui rappelle sans doute le serpent,
une sorte de serpent mais à pattes, une grande espèce de lézard.
Avec des ailes rouges.
Et puis alors autre chose qui m'amuse beaucoup, c'est que vous savez que Gauguin se moquait beaucoup de Seurat et Signac qu'il avait laissé à Paris, avec qui il avait été lié et puis brouillé. Et il s'est beaucoup moqué de cette façon de peindre par petits points, qu'il les appelait les ripipoints. Et là, visiblement, il a travaillé en ripipoints, mais pas avec la méthode néo-impressionniste, c'est-à-dire c'est pas des petits points de couleur contrastée, c'est des petits points qui accentuent la couleur des grandes plages de couleurs qu'il aime peindre. Alors il y a des petits points rouges vifs sur du rose, des petits points bleu foncé sur un bleu plus clair. Enfin, il se sert de cette technique d'une autre façon, avec beaucoup, beaucoup de charme et d'élégance.
Et là, en fait, tout à côté, il y a d'autres têtes de tahitiennes qui, visiblement, le fascinaient, alors qu'en fait, elles ont des traits assez lourds, enfin, qui ne correspondent absolument pas aux canons de la beauté classique en Occident. Et sans doute, peut-on retrouver là cette fascination qu'il avait pour ce primitivisme, donc.
Oui, je crois que surtout, il n'était pas insensible à cette beauté un peu lourde et très, très sensuelle et très animale. Et ça, c'est le portrait de sa jeune compagne, Théoura, certainement. Et je crois qu'elle est très belle à sa façon, effectivement. Elle n'est pas dans les canons de la boucle. C'est pas un top modèle, mais elle est à sa façon splendide et pensive. Et il a été très frappé, Gauguin, dès qu'il est arrivé à Tahiti, par le caractère mélancolique de ce pays et des gens. Et ça, c'est une des choses qui l'a surpris et qui l'a transmis dans sa peinture.
Ou alors il l'aimait aussi en rapport avec ces forces primitives qui sont incarnées comme dans ce tableau-là, sur ce dessin-là. On voit l'esprit du mal qui apparaît, ou cette fois encore le cauchemar. Et c'est assez étonnant parce qu'on a l'impression qu'il a... en plus, quand il retourne à Tahiti pour la deuxième fois, là on est 1899, on est dans le deuxième séjour, celui qui sera le tout dernier aussi, on a l'impression qu'il cherche à transposer des éléments de sa culture religieuse aussi, dans sa peinture.
Oui, certainement, on voit le serpent qui est le serpent du mal, on voit une espèce de cavalier derrière cette femme apeurée, qui est évidemment un cavalier de l'apocalypse, de la mort. Mais il y a toujours ce côté, cette sorte d'hébétude qui est due en grande partie à la chaleur, à l'humidité, qui fait qu'on se meut là-bas avec plus de lenteur que d'une certaine façon et qu'on sent. Et puis, probablement aussi, c'est un souvenir, il a d'ailleurs fait plusieurs tableaux sur ce thème, un souvenir très frappant d'une scène où son ami Théoura avait une espèce de peur qu'il n'arrivait pas à lui faire exprimer, expliquer. Et il a imaginé justement ces peurs ancestrales de forces qui vous dépassent et qu'on ne comprend pas bien. Ça, c'est ce qu'il a montré dans ce très beau dessin, qui est une sorte de monotype d'ailleurs, c'est un dessin empreinte. C'est intéressant d'ailleurs qu'il se soit mis au monotype, c'est-à-dire une empreinte unique sur un autre papier d'un dessin qu'on fait d'un côté, car il admirait énormément Degas. Il admirait énormément Degas et c'est un procédé qu'a beaucoup aimé Degas. C'est sûrement de Degas que lui est venue l'idée, évidemment en le transposant très différemment chez lui.
Lève tahitienne. S'élève après le péché, pouvant encore marcher nue, sans impudeur, conservant toute sa beauté animale, comme au premier jour. La maternité ne saurait la déformer, tant ses flancs restent solides, les pieds de quadrumane. Soit. Comme l'Ève, le corps est resté animal. L'amour a imprimé le sourire ironique sur ses lèvres, et naïvement, elle cherche dans sa mémoire le pourquoi des temps passés, des temps d'aujourd'hui. Énigmatiquement, elle vous regarde.
Et c'est là où, se rendant compte qu'il faut qu'il aille encore plus loin aux sources les plus primitives, qu'il se persuade qu'à Tahiti, il les trouvera dans cette civilisation des Maoris, qu'hélas, la colonisation, l'église protestante et l'église catholique ont évincé de Tahiti. Il a donc une certaine déception. Outre le fait qu'il, contrairement à ce qu'on croit, n'a pas eu une vie si dissolue que ça à Tahiti, car atteint d'eczéma aux jambes, les petites vahinées ne tenaient pas tellement à se fourrer dans son lit, car elles croyaient qu'il avait la lèpre. Cependant, il a eu quelques petites maîtresses dont il a tiré de beaux portraits. Mais disons que le paysage tahitien et l'exotisme de ces vahinées ne suffisent pas à sa quête des sources primitives de l'art. C'est pourquoi il part pour les Marquises, où il passera les trois dernières années de sa vie. Il y mourra.
Les amours de Gauguin là-bas, et dont on voit quand même
quelques traces sur les tableaux. C'est le moins qu'on puisse dire, Paul Laudon.
Oui, alors il y a un mythe qui commence à être détruit. Gauguin dépravé, débauché, ne pensant qu'à coco jeune fille qu'il détroussait surtout aux marquises, vous savez, avec Monseigneur, cette grande rivalité qu'il y a eu entre eux. En fait, il était normal. Il a connu des jeunes filles, il avait des appétits normaux. Et au début, alors, à Mataïa, il a vécu avec Teamana. Il le raconte, je vous dis, dans Noa Noa. Il a vécu une période. Il a été amoureux vraiment de cette jeune fille qui lui a. Ben c'est un amour un peu, ça rejoint le mythe de l'âge d'or, la femme Ève à l'origine, etc., et leur amour tout simple. Et c'est superbe, il a dépeint d'ailleurs des très très beaux tableaux, Vainé, Notevi, vous savez, la jeune femme à la mangue, puis la jeune femme enceinte, c'est superbe. Donc Teamana, à Mataïa, ensuite Paoura, au cours du deuxième séjour. Et aux marquises, il y a la superbe Tahitienne Rousse des contes barbares, qui dit, oui, beaucoup de vainées dans ces tableaux, mais qui n'étaient pas toutes ces vainées.
Et le fait qu'il s'adonne à la boisson, alors ce serait une légende?
Mais là aussi, moi je parle beaucoup de. Je défends. Oui, je m'insurge contre cette légende. Bon, il buvait normalement. Alors, cette légende est bâtie sur. On a trouvé, vous savez, les contes chez le chinois. Et il y a des litres de vin, d'absinthe aussi. Mais il recevait beaucoup. Il avait table ouverte. Et il y avait tout un groupe autour de lui qui venait festoyer. Et. Gauguin ivre, non, il buvait normalement, peut-être que c'était un soir plus que de coutume, mais non. Et Gauguin, surtout donnant ses toiles, vous savez, pour avoir un lit d'absinthe, c'est absolument faux.
Et dans un autre ordre d'idées, plus intéressant quand même, le mythe, le fait qu'on retrouve très souvent dans ces toiles, enfin dans toute cette période, des objets rituels ou des allusions très précises justement à certains rites. Est-ce qu'il y a des éléments d'archives là-dessus? Est-ce qu'on trouve des traces de ce qu'il a pu lui-même voir, ou est-ce que c'est quelque chose de parfaitement empirique?
Non, on le voit d'abord dans ses tableaux, parce que dès son arrivée, les premiers jours, il le dit dans Noa Noa, il est à la recherche de ce passé perdu. Et il craint de ne pas le retrouver. Il dit que retrouverai-je les cendres de ce foyer. Et donc il recherche, et on les retrouve dans ses toiles. On voit d'abord ses tikis, des toiles de la première période, et les tikis qu'il représente, et il a lu des légendes, et il s'est intéressé aux atois, aux dieux. Les dieux sont morts, et justement, lui, les recherche, parce que vous savez, le christianisme, donc, qui a balayé les dieux ancestraux, et du panthéon polynésien, et lui, recherche Taroa, le dieu suprême, puis Ina, il y a des sculptures avec Ina et Tefatu, et puis Vairumati dans ses toiles, et en plus aussi des objets. Il était très intéressé par la beauté formelle, par exemple des objets marquisiens. Vous savez qu'il dit que les marquisiens ont un sens inouï de la décoration, et surtout des parures. Bon, il y a donc les tikis qu'il a vus, qu'il a dessinés, qu'on trouve dans ses toiles. Et puis aussi des objets, des boucles d'oreilles qui sont vraiment des sculptures avec des formes. Les tikis, vous voyez, ne sont pas des dieux, ce sont des divinités, des ancêtres, des divinisés tutélaires. Et Gauguin s'y intéresse au point de vue, je vous dis, beauté formelle. Et on le voit dans certaines de ses toiles, mais avec un symbolisme. Par exemple, il y a un tableau que j'aime beaucoup. C'est Teparai Marae, c'est derrière le Marae. On ne voit pas le Marae, mais on voit une barrière faite de ces boucles d'oreilles à tiki polynésiennes, et tout un symbole, les dieux sont morts, on ne voit plus le Marae, c'est derrière la barrière, vous voyez. Et il y a beaucoup d'objets comme ça que l'on retrouve dans ces toiles.
Marta de Giacomi, alors cette fois devant l'un des tout derniers tableaux de Gauguin, enfin du moins dans cette exposition, qui est un autoportrait près du Golgotha et qui date celui-là de 1896. Alors 1896, il vient de repartir pour la deuxième fois pour Tahiti. Ce sera son deuxième et grand voyage, mais aussi le dernier. Et en même temps, alors donc, on voit ce personnage qui se détache sur un fond noir. Enfin, on sent que le terme de Golgotha, déjà qu'il utilise dans le titre, laisse présager le pire. On sent que c'est un personnage extrêmement tourmenté qui se représente ici. Il traverse une période des plus noires de sa vie.
Tout à fait, c'est un portrait, je dirais même, très tragique. En plus, donc, c'est Paul Gauguin lui-même qui donne le titre à ce portrait, puisqu'il écrit lui-même avec sa propre main, légèrement, donc en bas à gauche, près du Golgotha, avec la date 1896. Alors, c'est vrai que Gauguin part pour la troisième et dernière fois définitivement sous les tropiques. Vous savez, après son premier grand voyage sous les tropiques, il est rentré en 93 pour cause de maladie, mais il était tellement endetté qu'il n'avait pas les moyens de rentrer. Il était déjà très malade en 92, mais a traîné jusqu'en 93, et c'est grâce à ses amis, je crois Daniel de Montfred ou Émile Schouffenegger, qui font le nécessaire de lui envoyer de l'argent, n'est-ce pas? C'est grâce à eux qu'il peut rentrer en France. Il restera en France une année, donc l'année 94, une année plutôt tragique, avec plein de mésaventures, entre autres une exposition complètement ratée à Paris qui fut organisée par son ami Edgar Degas. Vous savez que Edgar Degas avait beaucoup d'admiration pour les toiles de Gauguin, et c'est Edgar Degas qui organise une exposition Gauguin.
Il acquiert lui-même d'ailleurs plusieurs toiles.
Absolument, exactement. Mais justement, la population parisienne était absolument scandalisée par ces couleurs exagérées, intenses, très vives, n'est-ce pas? Et puis en plus, les couleurs qui ne correspondaient pas à la réalité, n'est-ce pas? Des chevaux en rose, du sable en bleu. Là, on sent aussi que Gauguin va influencer les fauves au début du XXe siècle. En plus, les nus de couleur, qui à l'époque étaient considérés comme des prostituées. Et puis alors, pire que tout, n'est-ce pas, ces noms bizarres des tableaux. Té Poi Poi, Papé Moué, Manao Tu Papao, n'est-ce pas, les Parisiens le tenaient pour un feulé complet qui avait perdu complètement ses moyens. Et là, une fois de plus, Gauguin se fait critiquer, démolir complètement. Alors il a reconnu en fait que l'Europe, c'était pas pour lui. Alors il a décidé de s'embarquer à jamais sous les tropiques, et voilà, de finir ses jours sous les tropiques.
J'ai pour voisin de brousse un vieux que la mort semble dédaigner. Son tatouage le rend effrayant ainsi que sa maigreur. Il fut condamné autrefois pour anthropophagie, puis on le fit revenir avant l'expiration de sa peine. Un farceur de capitaine italien, me voulant du bien, lui raconte que c'était moi, autrefois tout puissant, qui avait intercédé en sa faveur. Je ne démentis pas le mensonge, et cela me fut utile. Car le vieux, qu'on n'a jamais pu baptiser chrétien, reste pour tous un sorcier. Et il a mis sur ma personne et ma maison le tabou, c'est-à-dire que je suis sacré. Quoique ayant appris des missionnaires toutes les superstitions que ces religieux leur apprennent, ils conservent encore leurs anciennes traditions. Ce vieux et moi, nous sommes des amis, et je lui donne du tabac sans que pour cela il s'en étonne. Je lui demande quelquefois si la chair humaine est bonne à manger. C'est alors que sa figure s'illumine d'une infinie douceur. Une douceur toute particulière au sauvage. Et il me montre son formidable râtelier. J'eus la curiosité de lui donner un jour une boîte de sardines. Ce ne fut pas long. Avec ses dents, il ouvrit sans se faire mal la boîte, et il mangea le tout rubis sur l'ongle. Comme tu le vois, plus je vieillis, moins je me civilise.
En cette fin du XIXe siècle, le peintre de la couleur pure n'ignore rien d'un nouveau support en noir et blanc destiné à un avenir brillant, la photographie. L'exposition universelle de 1889 l'avait déjà fait rêver sur les photos des îles du Pacifique. Gauguin, dans son atelier des tropiques, en conserve toute une collection. Des photographies qui servent parfois de support à sa création. Un matériau intéressant pour un analyste. Jean-Yves Trien.
La photographie est intéressante parce que ça ponctue toute l'œuvre de Gauguin comme autant de relais qui sont nécessaires à la création, qui vont en même temps apporter certaines choses propres à la photographie, comme par exemple la sacralisation de la photographie, l'influence du détail. La photographie est une technique qui met l'accent sur le détail. Et ce détail photographique va certainement influer chez Gauguin sur la formation du symbole. Et ce qui est très important aussi, c'est que la photographie va entrer en relation, disons, va faire écho à certaines problématiques personnelles dans la vie de Gauguin. L'analyse classique de l'influence de la photographie est celle qui montre comment il a réalisé Eve Exotique, la fameuse gouache sur toile. Le tableau a une inscription très très bizarre d'ailleurs en bas à droite qui est inversée. Il y a la date qui figure 94, mais on peut être très interrogatif. Et vraisemblablement, l'inscription était rajoutée ultérieurement. Le tableau représente donc une Ève nue au paradis terrestre, qui représente l'Éden avec le pommier, le serpent entourant le tronc. Et l'Ève de Gauguin a les traits d'Aline-Marie Chazal, c'est-à-dire la mère du peintre. Le visage d'Ève exotique provient, c'est une chose qui était assez connue, provient d'une photographie d'une toile de Jules Laure qui représente la mère de Gauguin à un âge relativement jeune, qui porte un col de dentelle, dans la tradition des jeunes dames de Lima, puisque là, c'était une femme d'une famille péruvienne. Et les mêmes traits se retrouvent sur le visage d'Ève exotique. Et donc Gauguin représente sa mère nue au paradis terrestre. C'est un sujet sulfureux, s'il en est. Et c'est un sujet qui est en même temps étonnant par son innocence, par sa naïveté, et presque par, encore une fois, je dis presque, mais surtout par son côté infantile. Et ça va être le déclenchement de toutes les Ève au paradis. Et il va synthétiser sur la toile toutes des composantes qui vont venir de son voyage précédent en Martinique. Ça va être les palmiers, les cocotiers à l'arrière-plan. De ses voyages en Bretagne, ça va être les espèces d'arbres en forme de flammes, le coq et la poule aussi qui sont accouplés. D'un bas-relief de Borobudur dont il avait la photographie, il va modeler le corps d'Ève, ainsi que l'arbre et un petit arbuste en fleurs à côté.
Alors, on prend celui-là.
Gérard Garouste.
Là, justement, dans ce portrait, autoportrait au Christ jaune, par exemple, la manière dont la composition de la toile, tout dans les moindres détails, est réinventé. C'est-à-dire, il y a une espèce de rupture avec l'enseignement classique qu'il peut y avoir de la peinture, et de dire, je retourne à la case départ. Mais lui, quand il retourne à la case départ, c'est pas celle dont je parlais tout à l'heure. Moi, quand je retourne à la case départ, c'est le classicisme, c'est-à-dire un métier extrêmement abouti, qui serait le siècle d'or de la peinture. La case départ, c'est le siècle d'or de la peinture. Lui, on a presque envie de dire que la case départ, c'est la main de l'homme préhistorique sur la grotte de Lascaux, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire... on a l'impression, quand on voit cet autoportrait, qu'il se dit, mais au fait, un autoportrait, pourquoi est-ce que ça serait composé comme les classiques? On a déjà l'impression que dans sa composition, il y a quelque chose qui est en rupture avec l'idée de l'autoportrait que l'on connaissait par cœur, où chaque peintre de toutes les époques ont fait des autoportraits. Là, c'est, je sais pas, mais ça fait étrangement penser à un autoportrait de photographie, justement. C'est un peu composé comme une photo. Ça nous est familier, cette vision-là, parce que c'est une vision moderne de l'autoportrait, mais je suppose qu'à l'époque, c'était, C'était choquant dans sa composition. C'est mal foutu pour un peintre classique. C'est complètement raté.
Pourquoi est-ce mal foutu?
Eh bien, parce que à l'académie, on apprenait les bonnes proportions, les proportions dorées, les proportions. On apprenait à faire du nu. Comment ?
Selon le nombre d'heures.
Par exemple, et puis même les études qu'on pouvait faire au fusain, les compositions de nature morte. Une nature morte, une composition, ça ne se faisait pas comme ça. Il fallait que le melon soit en proportion avec la carafe et le verre qui était devant, le couteau qui donne le rythme, etc. Rien n'était au hasard. Et là, il y a un peu l'idée de « je me fous de cette rigueur, mon style, ça sera n'importe quoi. Il y a un peu, j'avance et je c'est ça la définition d'être iconoclaste et
qui
d'être
qui même me suivent.
Qui même me suivent, oui. Et j'imagine quand je vois ça, j'imagine ça devait lui faire quelques frissons dans le dos parce que il devait avoir le sentiment d'être très peu suivi. C'est très, très, très courageux.
Je reviens en arrière un petit peu pour vous dire que arrive un jour Sérusier qui demande à Gauguin de lui apprendre à peindre. Et Gauguin l'emmène au bord de la Veine et lui dit « Que voyez-vous dans les reflets de la rivière ? Je vois des... » C'était l'automne, des jaunes éclatants. « Eh bien, mettez du jaune. » Il avait pris le couvercle d'une boîte de cigares. Et il dit « Mettez carrément du jaune. Mettez votre jaune. Vous voyez des reflets de branches. Mais mettez du vert. » Et il arrive à peindre ainsi pendant ces 2 ou 3 heures de cheminement sur la Veine une peinture quasi abstraite et fauve naturellement. Et rentrant à Paris, il rencontre Maurice Denis, etc. Tous ses camarades, et il leur dit voilà, c'est le talisman. Le talisman, d'où la naissance du mouvement des nabis, nabi qui veut dire prophète en hébreu, et qui est un retour au symbolisme et à l'art religieux.
Et qui vont exposer une première fois dans un café, pas très loin de la Tour Eiffel, en 1889, à l'occasion de l'exposition universelle.
C'est un échec. Ils ne vendent quasiment rien.
Puisque mes tableaux sont invendables, qu'ils restent désormais invendables. Et il arrivera un moment où on croira que je suis un mythe, ou plutôt une invention de la presse. On dira, où sont ces tableaux? Le fait est qu'il n'y en a pas 50 en collection en France. Si j'ai fait de belles choses, rien ne les ternira. Et si j'ai fait de la merde, pourquoi tromper les gens sur la qualité de la marchandise? En tout cas, la société ne pourra pas me reprocher de lui avoir pris beaucoup d'argent dans sa poche au moyen de mensonges. À Daniel de Montfred, novembre 1897, Tahiti.
Yann Le Pichot.
Et là, je crois qu'il faut dire qu'il est un grand précurseur, un prophète de l'art moderne. Pourquoi? D'ailleurs, j'ai fait reconstituer la case de la maison du Jouir, qu'il avait donc à Ivaoua, à Tuana, la petite ville principale de Ivaoua. Et là, naturellement, au Marquise, il est heureux parce qu'il trouve effectivement des sculptures polynésiennes qui sont souvent géométriques et abstraites, et des plats sculptés, des pendentifs, des cannes, des armes, des bâtons, et puis naturellement les fameux tiki, ces personnages mythiques qui lui permettent d'imaginer que grâce à ces personnages, il entre en correspondance avec les esprits. Eh bien, au Marquise, il fait cette rencontre. Et si j'ai fait reconstituer la case de la maison du Jouir qu'il avait bâtie et dont il avait fait sculpter les montants de la porte de sa chambre au premier, à laquelle on accédait par une petite échelle, et lesquels montants, soyez amoureuses et vous serez heureuses, sont au musée d'Orsay, c'est parce que je pense qu'il y a là le début. J'ai demandé au maire d'Atouana de mettre une pancarte. Ici commence l'art moderne. Alors pourquoi? Pourquoi Gauguin est-il ce prophète? Pourquoi, dépérissant et mourant dans des conditions dramatiques, après s'être insurgé contre les gendarmes des îles, des marquises qui embêtaient les marquisiens, leur reprochant de boire comme des trous, etc., alors que Gauguin les recevait dans sa case avec des tonneaux de rhum et de vin? C'est parce que il a intérioriser l'art. Il a retourné l'art de l'art réaliste, disons positiviste, descriptif extérieurement de la nature, en comprenant que l'art est cette intériorité, que c'est l'âme même qu'il faut traduire.
C'est-à-dire que le 8 mai 1903, Coquet est mort, comme on l'appelait là-bas à Papette et aux Marquises, mais Gauguin reste.
Coquet est mort. Coquet, c'était la manière de prononcer des Tahitiens, mais l'évêque de Ivaoa et les religieuses du collège, du pensionnat, dont il a extrait d'ailleurs l'une de ses vaïnées, l'appelait Coquin. Coquin, et Gauguin s'est vengé du rejet et de la dénonciation que fait l'évêque et les religieuses de son immoralité. En campant dans le jardin de sa case, une statue qui représente l'évêque en diable cornu, et à côté de cette statue, sa servante, dont il laisse entendre qu'elle est sa maîtresse. Donc il y a un anticléricalisme, et d'ailleurs il va sur les rivages quand arrivent les habitants des autres îles qui amènent leurs enfants pour les mettre en pension chez ces religieuses. Il va avec son code civil et leur dit « Vous n'êtes pas obligés, contrairement à ce qu'on vous l'a dit, de mettre vos enfants en classe ». Et c'est ce qui met en fureur, en colère l'évêque et les religieuses. Et, naturellement, j'ai été à Ivaoa, j'ai vu des religieuses qui ne l'avaient pas connues, mais qui avaient très bien connu les sœurs. Et quand je suis arrivé pour leur parler de Gauguin, j'étais effrayé, comme si je ramenais le diable.
Là, il va mourir, quoi. Ça, c'est la fin. Il y a un personnage, un Maori, à droite, au fond, en arrière-plan, assez... pas flou, mais disons, les traits ne sont pas bien précis. C'est la mort qui est à l'arrière-plan. C'est la certitude, au fond, de terminer sa vie dans un bref avenir.
Et puis le fond est tout noir, c'est le... Alors que le plus souvent, les fonds des tableaux de Gauguin sont peints dans des couleurs extrêmement vivaces.
Tout à fait.
Il y a vraiment quelque chose de très impressionnant.
Bien sûr. Et vous avez remarqué le vêtement. On dirait un condamné à mort.
Oui, on dirait qu'il va subir une pendaison.
On dirait, oui. Hein, le cou est dénudé comme quelqu'un qui va passer à la guillotine. Hein, c'est vraiment, on pourrait dire, ecce homo. C'est Gauguin, c'est l'homme, c'est l'artiste créateur. Et c'est pour ça que le personnage et la peinture de Gauguin intéressent tant. Parce que c'est un espace, vraiment. C'est un personnage sur lequel on peut projeter toutes nos angoisses, toute notre difficulté. Et en même temps, c'est un personnage qui avait cette lucidité folle d'avoir conscience de la mort et qui va utiliser toutes ses faiblesses, tous ses défauts, on pourrait dire, parce que Dieu sait s'il en avait, pour atteindre son idéal créateur. Et là, tout va y passer. Ça devait être un personnage impossible à vivre dans la vie de tous les jours, mais tout va être mis dans la peinture.
Une vie, une œuvre, Paul Gauguin, 1848-1903, ou le mystère éclatant de la couleur pure. Avec le peintre Gérard Garouste, Françoise Cachin, directeur des musées de France, auteur d'un Gauguin chez Flammarion et de Gauguin, ce malgré moi de sauvage, collection découverte de Gallimard. Claire Fraîche, conservateur au musée d'Orsay. Paul Laudon, qui organisait en 1989 un grand colloque sur Gauguin à Tahiti. Yann Le Pichon, historien d'art, auteur de « Les peintres du bonheur » et de « Sur les traces de Gauguin » chez Robert Laffont.
Jean-Yves Tréhin, analyste, qui prépare un ouvrage sur Gauguin et la photographie. Enregistrement à la Fondation Janada avec Martha de Giacomi, à Martigny, en Suisse, dans le cadre de la grande rétrospective Gauguin. Lecture des textes de Gauguin par Bruno de Volder. Prise de son, Jean-Marie Charon, Philippe Etienne et Serge Ristich. Mixage, Jean-Richard Dufour et Isabelle Ribe-Eckert. Une émission de Pascal Lismonde, réalisée par Jean-Claude Loiseau.
Et dans mon rêve, un ange aux ailes blanches vient à moi souriant. Derrière lui, un vieillard tenant dans sa main un sablier. Inutile de m'interroger, me dit-il, je connais ta pensée. Demande au vieillard de te conduire à l'infini plus tard, et tu verras ce que Dieu veut faire de toi, et tu trouveras qu'aujourd'hui, tu es singulièrement inachevé. Que serait l'œuvre du Créateur s'il était d'un jour? Dieu ne se repose jamais. Le vieillard disparut, et réveillé, levant les yeux au ciel, j'aperçus l'ange aux ailes blanches qui montait vers les étoiles. Sa longue chevelure blonde laissait dans le firmament comme une traînée de lumière.